Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et bonsoir à tous, bienvenue sur Capture Mag, le podcast de cinéma. Et on arrive à la fin de l'année les amis. Eh oui, c'est le 28 décembre et il est presque l'heure de se souhaiter la bonne année, hein? Qu'en pensez-vous?
On va attendre de passer, de tourner, voilà ça là, on va attendre le prochain Capture Mag pour se souhaiter la bonne année. En tout cas déjà je vous souhaite la bonne soirée les amis. Avec Rafik, bonsoir Rafik.
Bon anniversaire, pardon, bonsoir, salut. Joyeux Noël à tout le monde.
Alors ce n'est pas la Saint-David, c'est demain. Demain, c'est le 29. Voilà.
Dis ça, on le saura.
Vous le saurez comme ça.
Je suis perdu, je ne sais plus. Je ne sais plus là.
Bonsoir Julien, comment vas-tu?
J'arrive plus là. Ça m'a perdu là.
Non, je t'ai perdu.
Ouais.
Non bon. Mais t'es là, t'inquiète pas,
t'es là.
C'est bon.
Bonsoir Stéphane.
Salut David.
Et au moment où nous enregistrons, l'ami Arnaud est loin de nous, loin de nos cœurs, mais pas loin de nos pensées.
Mais il est toujours au restaurant La Merenda, non c'est
pas ça. Il en est à son deuxième plat de moule.
Mais non, il mange des tripes là.
Un tripou, un beau gros tripou. Bon, allez, on va faire ce Capture Mag Hebdo vite fait, bien fait, avec des sujets intéressants, plein de nouveautés à raconter. Et je crois que nous allons engager les hostilités directement avec l'ami Julien. C'est parti. Ça va, t'es bien calé, tu es prêt,
ouais,
tu le sens bien.
Ouais, je suis ton ami. Hein.
Allez, parle-nous d'un truc qui s'appelle Your Name.
Ah, alors on attaque par Your Name.
Je ne sais pas ce que c'est.
Ah ben, déjà, il faut te dire, je pense qu'on peut le présenter comme... C'est un phénomène, voilà. C'est d'habitude
D'accord.
une expression qui est un peu galvaudée, souvent, dans les... Mais là, c'est vraiment le cas. C'est un film qui est en train de remporter un triomphe, parce que sa carrière n'est pas finie en salle au Japon. Mais
c'est un film japonais.
Ouais, ouais, c'est un film d'animation japonais.
C'est quoi le titre original?
Mais
ça serait pas Kimi no Nawa.
Voilà. Et non.
Mon japonais est parfait.
Et le film est le truc qui est très très étonnant, c'est que il a battu les grands succès du studio Ghibli 1-1-1 quoi en fait. Là, je crois.
J'en profite pour vous mettre la musique en même temps.
Il a battu. Je sais qu'il a déjà battu Princesse Mononoke. Il a déjà battu le Château ambulant. Et je me demande s'il a pas déjà battu aussi le Sylvage de Chihiro. Il faudrait que je.
Il va
je
tout vois. Défoncer.
C'est hallucinant.
Mais qui est le réalisateur de
et
ce,
voilà.
ce
et
chef
le voilà le réalisateur, celui que le grand public français à mon avis va découvrir parce que je pense que le film aussi va être un carton en France. En tout cas, je lui souhaite. C'est Makoto Shinkai, qui est un réalisateur que les gens qui suivent la Japanimation connaissent déjà.
Et c'est mon cas. C'est mon cas.
Tu le connais déjà.
Oui, j'aime beaucoup Makoto Shinkai. C'est un type qui est son premier court métrage, long métrage, enfin moyen métrage était hallucinant puisqu'il l'a fait tout seul.
Ouais. C'est ça en fait. Le truc, c'est que lui, il est pas affilié à un studio ou quoi que ce soit. C'est un mec qui fait tout seul et qui a eu déjà, d'ailleurs, pas mal de mal à déléguer hein, sur certains de ses films. Notamment, je crois que c'était sur Le Voyage vers Agartha où il y a eu pas mal de conflits avec l'équipe. Il a eu un petit peu de mal et c'est pas du tout le cas sur Your Name. Qui est qui est vraiment le film à plus d'un titre qui j'ai l'impression le fait vraiment définitivement rentrer dans la cour des grands. C'est-à-dire qu'on savait qu'il avait du talent, on savait que c'était une voix atypique dans le cinéma japonais. Là définitivement le gars il a réussi à toucher le public et puis il a réussi à rentrer dans un cadre de production
Alors,
qui est carrément tout autre quoi.
Julien, puisque j'ai découvert en fait j'ai dit que je connais mais en fait j'ai découvert Makoto Shinkai il y a pas très longtemps. J'ai commencé à regarder ses films et alors c'est un mélange de plein de choses très intéressantes parce que il y a de la romance, il y a de la science-fiction, il y a de la poésie et alors il y a surtout un univers visuel absolument incroyable, d'une richesse.
Oui, c'est ça. Déjà c'est quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup de photos en fait sur son précédent film qui était une espèce de qui était plus un moyen métrage qui s'appelait Garden of Words. Mm-hmm. C'était le film qui ressemblait plus aux photos que lui prenait. C'était même tous les décors étaient basés sur les photos d'un quartier de Tokyo où il va très très souvent. Mais j'aurais quand même qu'on se ressente sur Your Name qui rappelle au début en tout cas Makoto Shinkai sans vraiment le rappeler. Juste pour vous pitcher l'histoire, c'est l'histoire de deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés. Il y a une petite fille, enfin une jeune adolescente pardon, qui vit dans un village reculé au Japon, pétri de philosophie Shinto, qui elle-même d'ailleurs est une prêtresse Shinto. Et parallèlement, il y a un jeune garçon qui est lui tokyoïte, qui vit cette existence trépidante de cette mégalopole, en étudiant, tout en ayant un travail à côté, en ayant une histoire d'amour un petit peu contrariée. Et il se trouve en fait que les deux personnages vont échanger de corps en s'endormant. Mmh. Évidemment, ils comprennent pas au début ce qui leur arrive. Il y a un instant de stupeur. Il faut qu'il y a un apprentissage parce que il y a des va-et-vient comme ça constants. Hein. Donc, il faut qu'ils apprennent à travailler autour de ce corps. Et puis après, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils apprennent à communiquer l'un avec l'autre, à se connaître. Peut-être à céder, peut-être même aller encore plus loin, ça je vous laisse deviner. Et donc ça, c'est le pitch qui est déjà...
C'est un peu Freaky Friday version japonaise.
Oui, mais sauf que ce qui est génial, en fait, c'est que du coup, t'as un rapport au corps, à l'autre, parce que comme il change de sexe à chaque fois, qui est super étonnant, y compris d'ailleurs, c'est un vrai beau projet d'animation, d'ailleurs, à ce niveau-là, parce qu'il faut voir comment les animateurs ont réussi à retranscrire le trouble de ces corps qui n'appartiennent pas la personnalité qui est en train de les mouvoir et tout. Donc ça, c'est super, ça marche très très bien. Devant cette première partie, on va dire, moi j'étais un petit peu déstabilisé. C'est-à-dire que je me disais, bon, il n'y a pas le côté très mélancolique, très triste qu'on retrouve d'habitude chez Makoto Shinkai, qui a fait des relations impossibles, surtout parce que les personnages sont en général séparés par le temps ou l'espace, voire les deux. La pierre angulaire en fait de son œuvre. Donc je trouvais ça super plaisant, mais je me disais bon voilà, où est-ce qu'il va. Et il y a un twist que je vais pas vous révéler, mais qu'il y a un twist qui arrive disons à la moitié du métrage à peu près, je saurais plus trop dire, mais en gros c'est l'impression que ça m'a donné, et qui fait basculer le film sur un registre alors tout autre, beaucoup plus dramatique, beaucoup plus grave, qui travaille sur les peurs fondamentales des Japonais, des cataclysmes naturels, voilà, et aussi qui replace la relation des deux personnages dans, j'ai envie de dire, le cosmos. Alors, ça fait un peu pompeux comme ça, mais c'est vraiment un truc là-dessus, c'est-à-dire en quoi la relation entre deux êtres aussi fragiles peut avoir du sens face à l'indifférence du cosmos, etc. Et c'est pas du tout pompeux. Ma façon de l'expliquer l'est peut-être un peu, mais dans le film, c'est pas du tout comme ça. C'est extrêmement sensible, c'est super émouvant. Je pense que c'est une des raisons qui ont fait que le film a autant cartonné aussi au Japon, c'est que je pense pour tous les ados, les gens en quête de romantisme, d'amour, etc., il y a un truc super fort du coup dans le film. Et tout ça est sous-tendu par un travail de mise en scène hallucinante. Je vous ai déjà un peu parlé de l'animation, mais le film fonctionne aussi énormément sur des rimes, et notamment des rimes visuelles. Donc il y a beaucoup de il y a un travail incroyable sur le tout ce qui est passage, porte, ouverture de porte, fermeture de porte, ouais. Etc.
Et aussi le roi de l'ouverture de porte.
Et aussi surtout, et alors ça c'est, je trouve ça génial, et rien que pour ça j'ai envie de revoir le film plusieurs fois, sur la ligne. Il y a une figure qui revient tout le temps dans le film, qui est une comète qui passe pas très très loin en fait du Japon. C'est plus ou moins à ce moment-là qu'ils échangent de corps. On se demande d'ailleurs si c'est pas cette comète là qui est en train de
provoquer. C'est comme dans Spider-Man 3 en fait.
Et donc il y a une comète, donc ça laisse comme ça un trait dans le ciel. Et cette ligne revient tout le temps en fait dans le film. Et il y a un travail sur la ligne qui est brisée ou qui continue. L'adolescente par exemple, eh ben là, il y a tout un truc sur ses cheveux qu'elle attache avec un lien. Ça va jusqu'à un travail sur les lignes au sol pour le marquage au sol pour le bitume et tout. Et tout ça fait que le film poursuit énormément. Je sais que je l'ai vu avec Arnaud Bordas, à qui je pense beaucoup.
On y pense aussi. Arnaud.
Et on a eu tous les deux la même réflexion, c'est-à-dire qu'on a vu le film. C'est super, c'est très bouleversant, mais surtout ça poursuit. On y a repensé tous les deux beaucoup ensuite pendant nos soirées ensemble.
Si vous êtes parisien et même peut-être en France, vous verrez l'affiche du film. Donc il y a d'excellentes critiques dithyrambiques qui sont placées sur l'affiche, dont la première qui est du Figaro Magazine, qui dit un tourbillon de beauté et de créativité. En réalité, il faut bien comprendre que c'est notre ami Arnaud Bordas,
Arnaud Bordas.
Qui a écrit
dans le texte.
Voilà, et qu'il faut le lire autrement, il faut le lire comme un tourbillon de beauté et de créativité.
Et je vais signaler juste le magazine Coyote Magazine, en fait, dont le rédacteur en chef est Thomas Maximovic, qu'on avait déjà reçu ici à Capture Mag, qui a fait
pour Satoshi Kon à l'époque. Ouais.
Ouais, pour Satoshi Kon, qui a fait sa couve, Coyote Mag a fait sa couve sur Your Name, et il y a un article intéressant que vous ne trouverez pas ailleurs, justement, dedans, sur tout le travail annexe de Makoto Shinkai, parce que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé, notamment dans la pub, un peu dans les clips. Et c'est super intéressant.
Et le film sort là maintenant.
Ouais. Voilà.
Ce qui sera peut-être l'occasion de découvrir si le film de Patrick Schulman de 1980, Rendez-moi ma peau, a servi de.
La seule personne qui se rappelle de toi.
Sûrement.
Et Julien, une question.
Non, mais on peut peut-être renvoyer sur l'œuvre de Makoto Shinkai, parce que.
On a plus de temps. Vas-y, voilà, Stéphane, très vite une question à Julien qui va répondre très rapidement.
Parce qu'en fait, le truc, c'était de savoir pourquoi, à ton avis, toi qui as vu le film, parce qu'on sait pourquoi les Miyazaki sont des cartons énormes au Japon, au-delà même du truc, c'est que l'aspect universel de ces films, en fait, qui convoque beaucoup de gens. Mais là, d'après ce que tu as l'air de raconter, c'est pas forcément aussi universel que ça peut le paraître, en fait.
Non, je pense que ça l'est totalement. À mon avis, je vois pas des ados voir le film et rester indifférent à ça, quoi. Enfin, des ados en quête de l'âme sœur, on va dire, quoi. Ça me semble impossible, quoi. Et puis,
mais
je pense
c'est une frange de public, là.
Oui, mais je sais pas, c'est toujours compliqué hein, d'analyser ça. Hein. Je pense qu'il y a aussi un autre truc aussi dans le film dont j'ai pas parlé là, c'est que du coup, le truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a un dialogue à la fois entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire que la fille, elle est dans un milieu quasiment exclusivement féminin, il n'y a pas de figure paternelle, ou en tout cas, elle est quasiment absente. Le garçon, lui, c'est un milieu quasi exclusivement masculin aussi, et aussi entre le Japon moderne et ancien. Et il y a un dialogue comme ça qui s'instaure entre les deux qui est super intéressant et qui est pour le coup universel. Hein. Voilà.
Je voulais juste renvoyer éventuellement les gens qui nous écoutent vers Voices of a Different Star que vous pouvez trouver assez facilement sur les sites type YouTube.
C'est son premier court. Enfin, moi, c'est un de ses premiers moyens
par lequel beaucoup de gens ont découvert cet auteur.
Ouais, très très beau.
Et la tour au-delà des nuages qui ressort aussi là en Blu-ray.
Non, mais là, plein de choses vont ressortir et c'est un vrai bonheur parce que c'est un très très.
Et Garden of Words qui est toujours disponible, que je vous conseille, qui est super bien.
Voilà, un peu du thème des thèmes.
J'ai envie de pleurer, putain.
Non, mais nous le casse pas, c'est lui qui fait la prochaine chronique.
Non, mais moi j'ai beaucoup pleuré pendant le film. Après, je suis très fleur bleue, moi. C'est un peu chiant. J'ai envie de te faire un câlin, David.
Eh bien, n'hésite pas.
Non, mais il faut passer au suivant, là.
Passons au suivant.
Parce que sinon, on va devenir trop...
Transition.
Mais après, ça casse, hein,
après
ça
l'amour, casse. La haine.
Oui, tout à fait. Vas-y, parle-nous donc de ce truc qui s'appelle King of Pigs. Ça a pas l'air aussi romantique. Ah, d'accord.
Alors, en fait,
et c'est All Station, c'est ça.
Voilà.
Des films coréens, en fait, a priori.
Voilà, en fait, il y a Dernier Train pour Busan qui a été un peu la
locomotive.
Le sleeper français, j'ai envie de dire, de l'été dernier. Parce
mondial, hein.
Même mondial, oui, c'est vrai que ça a été un carton partout, ça a été un succès critique et public. Et je trouve le film a été très bien reçu en France, c'est super et tout. Et je trouve qu'il a quand même été reçu avec un tout petit peu de condescendance. C'est-à-dire qu'on dit ah, c'est un super film de série, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire on se dit bon, bah, c'est un bon divertissement, quoi, avec toute la condescendance et le. Et c'est plus que ça, Dernier Train pour Busan. Et là, en fait, grâce au succès de ce film, on commence à découvrir que Dernier Train pour Busan, il y a un artiste. Qui a déjà une œuvre, qui a une œuvre très très forte, très cohérente, et je pense que en regardant cette œuvre-là, Dernier Train pour Busan prend une toute autre ampleur. Cet artiste, c'est Yong Sung Ho. Donc je suis désolé.
Non, non, si très bonne prononciation.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, ouais.
D'accord, je me suis dit, ta femme, elle va m'étriper.
Non, non, pas du tout.
D'accord, très bien.
Donc, Yong Sung Ho.
Voilà, et donc il s'est fait connaître maintenant à l'international avec un film live, mais en fait il vient du cinéma d'animation, il a même son propre studio d'animation en Corée, qui s'appelle Dada Show. Et il y a deux de ces films qui sortent aujourd'hui en vidéo. Le premier, c'est un supplément sur l'édition Steelbox de Dernier Train pour Busan. Ça s'appelle Seoul Station. C'est un vrai film. C'est pas un petit truc qui accompagnerait comme ça. Non, non, c'est un vrai film qui a une existence propre, qui aurait, à mon sens, un gagné à être distribué à part, en fait. Parce que là, il est un peu noyé dans les bonus de Dernier Train pour Busan. C'est un petit peu dommage, même s'il est vendu à part, je crois, en VOD. Donc c'est une espèce de préquelle donc officieuse à Dernier Train pour Busan qui raconte comment la ville a pu être a pu voir naître l'épidémie de zombies et de morts vivants. Et c'est comme dans Dernier Train pour Busan, mais dans tous les films en fait de Yong Sung-ho, un film extrêmement social. Ça se passe
Yong Sung-ho.
Voilà. Ça se passe dans les milieux les plus défavorisés en fait de Séoul. Et c'est une espèce de film choral. C'est un peu construit comme un film catastrophe. Donc on suit une très très jeune prostituée qui ne veut pas être prostituée, un proxénète, le père de la prostituée qui va essayer de la retrouver. On suit aussi des clochards et notamment le début du film que je trouve admirable. Et d'ailleurs si admirable que la suite du film n'est pas tout à fait à la hauteur de ses 20 premières minutes, montre comment un train savate, je pensais plutôt un SDF, tente d'alerter son entourage, de sauver un de ses copain qui va très très mal. Et en fait son copain c'est le patient zéro, en fait c'est le premier des morts vivants, enfin c'est comme ça qu'on le comprend, quoi. Et ce début où le fantastique n'intervient pas encore est absolument admirable. C'est ultra rythmé, super bien découpé, tous les personnages sont extrêmement incarnés, ce qui n'est pas évident dans l'animation. C'est très cruel, en fait. Il y a une façon de regarder son pays qui est, je sais pas ce qui s'est exactement passé. Je connais pas si bien que ça encore ce cinéaste et sa vie, mais voilà, il y a quelque chose chez lui, une colère sourde comme ça, une envie de révolte qui est très forte. Et ensuite, quand les morts vivants arrivent et interviennent, le côté social est toujours là. Il y a des séquences avec des barrières qui commencent à se créer, un rapport entre les nantis et les plus démunis de la société, et donc les plus vulnérables. Et ceux qui essayent de se protéger, et comment ils essayent de se protéger, est-ce qu'ils ont raison de se protéger comme ça, même pour leur bien à eux, avec plein de réflexions super intéressantes. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez ce réalisateur-là, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, c'est que même s'il y a un fond très dense et très intéressant, il n'en oublie pas pour autant qu'il travaille dans le genre, et il y va à fond. Et les scènes de zombies dans Seoul Station, comme dans Dernier Train pour Busan, sont souvent très impressionnantes et plein de bonnes idées en fait sur la figure du zombie. Ça,
alors,
c'est vraiment,
on rappelle,
super.
Hein, c'est un long métrage d'animation.
Exactement.
Et en fait, il est sorti la même année que Dernier Train pour Busan.
Voilà.
Donc a priori, c'est des choses. C'est un projet qu'il a mené, deux projets
de
qu'il
front.
A menés de front en
ouais,
même temps.
Ouais,
c'est
ouais.
ce qui fait la filiation de l'un à l'autre en tout cas.
Et c'est très bien découpé en plus. Et c'est très bien. Bah, alors donc ça, c'est super. Mais pour moi, le vrai événement autour du réalisateur, c'est King of Pigs, qui sort là parallèlement.
Il a un long métrage d'animation DVD, de 2011.
Voilà, exactement. Je crois d'ailleurs que c'est son premier long métrage, au réalisateur.
Alors, je regarde vite fait, mais oui, avant, il n'a fait que du court métrage d'animation.
Donc là, c'est moins affilié au genre. Ce serait un peu difficile de de vous définir le film, ce serait peut-être du thriller psychologique, quelque chose comme ça. C'est l'histoire de deux quarantenaires très fatigués, très désabusés, la quarantaine vraiment fatiguée, quoi, qui se retrouvent et ils vont au restaurant ensemble et ils commencent à se rappeler, à se remémorer leur adolescence qui a été extrêmement difficile, où ils étaient un petit peu les souffre-douleurs de la classe et notamment de ceux qui sont les plus à l'aise dans cette société où le paraître le extrêmement matérialiste. Bon, il y a toute une scène avec un jean de marque qui est assez traumatisante. Et donc ces deux personnages-là vont réussir quand même à passer toutes ces épreuves en se liant avec un autre gamin qui lui est extrêmement étrange, extrêmement noir, très morbide, avec des obsessions extrêmement morbides, mais qui en même temps est très fort et très violent, en fait, qui n'a pas peur d'y aller. C'est pas qu'il est fort, en fait, mais il a pas peur d'y aller. Et c'est donc la naissance d'espèces de monstres humains, de personnages amoraux, mais créés, en fait, par les dysfonctionnements de cette société-là, en fait. C'est ce qui est fascinant dans King of Peaks, c'est qu'il y a une alternance entre une espèce de chronique à la fois réaliste et extrêmement crue de ces années. Je sais plus s'ils sont, je crois qu'ils sont au collège ou au lycée, mais avec c'est une façon de montrer ces déviances qu'on ne voit que très rarement. Et je pense que d'ailleurs, ça aurait été difficile de faire un film comme ça en live. C'est-à-dire que l'animation permet justement d'avoir une distance assez salutaire. Et parallèlement à ça, il y a des visions complètement cauchemardesques qui peuvent de temps en temps faire penser au David Lynch de la bonne époque, qui dope en fait tout ça, qui permettent d'habiter un peu plus,
Stéphane Rafik, vous avez vu ces films ou pas du tout? Vous connaissez pas?
C'est pour ça,
à part Dernier Train pour Busan que j'ai vu cet été, ouais, non.
Moi non plus, j'ai pas vu les films, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les Coréens. C'est un peu, ça fait partie des meilleurs animateurs du monde, puisqu'ils animent beaucoup de choses pour d'autres productions, et même des Japonais, évidemment des Américains et des Européens. C'est un peu la main d'œuvre de l'animation mondiale, et donc je sais pas comment sont les films au niveau animation, mais ça doit être de bonne qualité.
Tu fais bien de me lancer, je pense qu'on peut d'ailleurs terminer là-dessus, c'est que c'est de l'animation d'image de synthèse, mais en cel shading. Et là aussi, c'est une des particularités du cinéma de Yong Sung-ho, à mon sens, hein, c'est qu'il y a du coup... c'est à la fois très réaliste et en même temps avec cette économie de mouvement propre au cinéma d'animation asiatique. L'image de synthèse donne au personnage un côté un peu désarticulé qui est extrêmement dérangeant, en fait, qui participe au côté très, très dérangeant de ces films. Voilà.
Pour juste terminer, on peut dire aussi un truc sur Emakoto Shinkai et Yong Sang-ho, sont deux jeunes réalisateurs, hein, parce que l'un a 43 ans pour Shinkai, et l'autre est né en 78, donc il est encore plus, jeune. C'est étonnant, hein, cette maturité
Mais ne loupez pas ça, parce que c'est rare de pouvoir voir naître des éclore comme ça, des jeunes cinéastes. Moi, je pense qu'un mec comme Yong Sang-ho, on va en entendre parler pendant un moment, quoi.
Forcément. Eh bien merci, on va passer au dernier sujet de la soirée en musique. Ah. Et vous avez reconnu la musique de To Live and Die in LA, en français Police Fédérale Los Angeles.
Tout à fait, de William Friedkin.
Film de William Friedkin, tout à fait.
Et on a tous mis nos jeans Mulburn,
nos lunettes chromées.
Voilà, c'est ça.
Et donc Stéphane, tu voulais nous parler de ce film. Bah pour quelle raison?
Alors Police Fédérale Los Angeles ressort en salle le 4 janvier. Alors il rate à peine le coche en fait des 30 ans du film en France, hein, à une semaine près, parce que le film est sorti en 86 à l'époque. Et pourquoi en fait je précise qu'il est sorti il y a 30 ans, c'est parce que c'est un véritable manifeste du cinéma des années 80 en termes visuels, en fait. Je pense que...
En termes musicaux aussi. Hein.
Oui, et le truc c'est que tu revois le film aujourd'hui, déjà en fait il faut resituer un peu dans la carrière de Friedkin. C'est un espèce de, comment dire, de relecture, on va dire, d'un de ses plus grands succès, En tout cas, il revient au polar avec ce film après avoir gagné l'Oscar dans les années 70 pour French Connection.
Bon, les deux films se renvoient. Hein. Enfin, y a
clairement, voilà. Et, mais je dis, quand je dis relecture, c'est que c'est pas tout à fait le même ton non plus. Mais le truc, c'est que et ce qui est très intéressant, c'est que je pense, moi, j'ai pas découvert le film en salle à l'époque parce que j'étais trop jeune.
Moi non plus. J'aurais pu, mais j'ai.
Voilà. Et le truc, il s'est passé. Mais il y a peu de monde qui a vu le film à l'époque. Ouais. Hein, parce que pour le coup, autant French Connection avait été un carton, autant celui-là était vraiment très très mal reçu, quoi. Enfin, en tout cas, par le public. Mais le truc, en fait, qui est super intéressant, c'est qu'on aurait pu croire à l'époque, j'imagine, et ça, Rafik va peut-être me le confirmer, parce que toi, tu l'as vu en salle à l'époque, que d'un seul coup, on aurait pu se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Friedkin change de style complètement, il se colle dans le moule, dans la mode, en fait, de l'époque. Alors que le style, on va dire, pseudo-documentaire des années 70, c'est plus ou moins lui qui l'a amené dans le cinéma à l'époque. Là, d'un seul coup, on se dit, il fait du vidéoclip, on fait de machin, etc. Et non, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes le film 30 ans après, c'est vraiment un manifeste de tout ce qui pouvait se faire dans les années 80, mais comment dire, de la façon la plus, j'ai pas envie de dire efficace, mais la plus forte visuelle, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le film, de cette manière-là, n'a pas pris une ride.
Faut noter que c'était un manifeste volontaire, c'est-à-dire il s'est dit qu'il allait faire un manifeste des années 80. C'est pas le cas de tous les films des années 80 qui avaient autour de lui.
De Cocoon, voilà. Tu veux dire,
non, mais voilà.
Le retour.
Pour les gens qui n'ont pas vécu cette époque et qui vivent dans une espèce de fantasmagorie des années 80, ils vont pas reconnaître que Police Fédérale Los Angeles est un film de ce qu'ils appelleraient les années 80. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le style Amblin, on n'est pas dans, du tout là-dedans.
Pas vraiment, non.
Voilà. On est effectivement à mi-chemin entre une espèce de prise sur le vif documentaire de post-French Connection et les premières expérimentations de style qui vont être repris ensuite à part Tony Scott et d'autres sur la fin des années 80. Il est à noter aussi que ce film a rendu malade un réalisateur à l'époque qui est Michael Mann, qui n'est pas encore le réalisateur confirmé et célébré, qui avait l'intention de faire ce film manifeste des années 80 et qui va le faire ensuite, enfin qui va faire Manhunter l'année suivante en reprenant à Friedkin son comédien William Petersen et en tentant de faire de Manhunter un manifeste qui supplante celui de Friedkin. Donc il y a vraiment effectivement une guerre pour essayer de capturer ce qui était l'essence des années 80. Là, dès le générique de début, qui est un générique assez rare, je trouve. Y a une idée qui va être reprise ensuite par Scorsese dans Casino, qui est de nous montrer le chemin de l'argent comme étant le seul et vrai et véritable et authentique lien social, si tu veux parler de la société américaine. Rien que ça, voilà, on voit qu'on est dans un projet.
Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, il faut préciser que c'est un flic en fait assoiffé de vengeance qui utilise tous ces ces indices et qui joue vraiment avec le feu en fait pour retrouver l'assassin de son partenaire en fait. Et ce qui est très très fort, je trouve, parce qu'aujourd'hui ça peut passer pour quelque chose classique, mais ça l'était clairement pas dans les années 80 à l'époque, c'est les défis narratifs que se lance Friedkin en fait avec ce sujet-là. Tu pourrais si t'étais un peu bercé à Miami Vice, si t'étais bercé à tous ces polars en fait qui sortaient à l'époque, sans essayer trop de spoiler le final pour ceux qui l'ont éventuellement pas vu, tu pouvais pas te permettre ce que faisait Friedkin à l'époque sans en payer le prix en fait auprès des spectateurs. Et c'est un des trucs qui fait encore la force du film aujourd'hui, c'est que pour ceux qui savent pas de ce qui se passe, en fait tu t'y attends absolument pas, c'est hyper bien géré et c'est hyper cohérent avec la thématique générale quoi du film, voilà. Quoi.
Et c'est une chose à laquelle Kassovitz a rendu ouvertement hommage dans La Haine. Kassovitz qui a grandi forcément avec ce film. Il y a effectivement des tas de choses qui peuvent aujourd'hui me sembler, par la force des choses, clichés, quoi, mais parce qu'elles ont défini aussi ce qu'allaient être les années 80.
Mais c'est un film sur Los Angeles et sur les années 80, de toute façon.
Ce flic tête brûlée qui nous est présenté dans un plan extraordinaire, un mouvement de grue extraordinaire au sommet d'un pont, prêt à se jeter dans le vide. C'est déjà le personnage de Mel Gibson dans L'Arme Fatale de 2 ans avant que le film n'arrive.
Qui est clairement une référence de Shane Black aussi. To Live and Die in LA.
Et To Live and Die in LA, bien sûr, est cité par Shane Black. Donc voilà, c'est un film qui a été très important pour toute une communauté autour du cinéma américain, qui n'a pas rencontré son succès public parce que le public.
Comme d'autres films de Friedkin, hein, on peut le signaler.
Oui, mais il faut noter que Friedkin dans les années 70 était le roi du monde avec des films qui étaient tout aussi offensif que pour les Fédérales. Les années 80, simplement, le public avait changé de nature et il voulait plus de ça. Il avait déjà eu un échec retentissant et un scandale avec la chasse, Cruising, voilà, ouais. Au début des années 80, qui l'ont fait rentrer difficilement dans cette décennie. Mais ça l'a pas empêché donc de livrer un film qui allait vraiment définir, de nous faire découvrir aussi un comédien, puisque c'était la première fois qu'on voyait vraiment Willem Dafoe dans un rôle important, ouais. et quel rôle, c'est un des plus beaux bad guys de la décennie.
C'est vrai.
Ouais, et puis c'est effectivement, comme disait Julien tout à l'heure, comme on le précisait, c'est là où c'est un film miroir de French Connection, c'est que de la même manière que French Connection, c'est un film sur New York, là c'est un film sur Los Angeles, comme tu disais, et il y a surtout, tout le monde a entendu parler de la poursuite dans French Connection, et clairement, Friedkin a essayé d'enterrer son propre travail, en fait, avec la poursuite de...
Je pensais même au travail entre ces flics jusqu'au boutiste, par rapport, en plus,
en
dans
marge
une espèce,
de la loi.
Ouais, puis dans une espèce de fatigue du quotidien, alors que en face, c'est luxe et volupté plutôt chez les méchants. En plus, ce qui est génial, c'est que le méchant, sans rien spoiler, je pense, c'est un esthète, en fait, dans le film. Ça, c'est super. C'est-à-dire que c'est un mec intelligent, c'est un mec qui a du goût, c'est un mec qui fait de l'art, et ça, moi, je trouve que c'est une idée absolument magnifique, quoi. De toute façon, il avait le chic, en fait, dans ces grands films-là, pour te camper comme ça des personnages, des incarnations du mal très, très fortes.
Donc, il faut aussi, il faut citer le chef opérateur du film, qui est Robbie Muller, hein, qui bossait avec Wim Wenders, tous ces gars, qui est vraiment, qui va être responsable de la définition d'un certain parti pris visuel, qui d'ailleurs va lui échapper, parce que la publicité dans les années suivantes va largement repomper les...
Alors, je voulais juste rebondir sur le truc de Michael Mann. Je me rappelle d'une rumeur comme quoi, carrément, Michael Mann avait fait un procès, avait menacé d'un procès Friedkin, parce qu'il estimait que c'était un plagiat de deux flics à Miami. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas, quoi.
C'est
assez fascinant, de toute façon, le dialogue, c'est vrai, entre Michael Mann et ce film, quoi, de toute façon.
Non, mais il y avait clairement une rivalité qui était mise en œuvre, en fait, à l'époque, et qui est d'ailleurs un peu documentée, je crois, dans le Nouvel Hollywood. Hein, dès qu'en fait l'un faisait un succès et que l'autre le dépassait, en fait, il se faisait des concours de vite à coups de bagnole, avec leur royalty.
Ceci dit, il a fini par l'avoir, son film manifeste, Michael Mann, qui est d'ailleurs sorti au milieu d'une décennie, comme Police fédérale de Los Angeles sort en 1985, Hit sort en 1995, ces deux films qu'on pourrait vraiment...
Et tu peux pas penser à l'un sans penser à l'autre.
Et c'est intéressant que tu signales ça, parce que j'avais parlé d'un autre film qui est sorti exactement à la même époque, et qui, pour deux Friedkin, parce que Friedkin a réessayé de faire, on le dit parce qu'on
l'a oublié,
pas très bon, voilà, il a réessayé de faire un nouveau coup dans les années 90 avec Jade, et avec un peu les mêmes, la même façon d'essayer de se répondre à soi-même. Là, c'est un film qui, je dis pas de bêtises, se passe à San Francisco au lieu de se passer à Los Angeles. Et il y a une poursuite en bagnole.
Il y a un flic au bout du rouleau. Il y a les méchants suaves qui viennent, pareil, de milieu de la haute, quoi, en fait.
Avec une idée esthétique que je trouve plutôt pas mal, d'ailleurs, très bonne idée, que lui sait faire. Mais c'est noyé dans le reste du film. C'est le fait
Poursuite, elle est géniale.
C'est de faire une poursuite statique, en fait.
Ça, c'est super. Elle est super bien, cette poursuite. Dans le Chinatown, en grosse partie dans le Chinatown. Voilà.
Donc, malheureusement, ce n'est clairement pas aussi réussi que Police Fédérale Los Angeles. Que je pense, en fait, que moi qui ne l'ai pas découvert en salle, je pense que je vais essayer de retourner le voir comme ça.
Et puis Friedkin est à l'honneur en salle, hein, parce qu'après la ressortie de Sorcerer
l'an dernier, oui.
Voilà, on a notre Friedkin de l'année, au tout début de l'année, donc c'est bien.
Et puis, je pense que c'est clairement quelqu'un qui vaut le coup d'être revu au cinéma redécouvert au cinéma, quoi. Mm-hmm. Donc ça ressort en salle le 4 janvier.
Formidable, on va aller le voir. Après avoir vu, pris notre dose de Star Wars, on peut aller voir du Friedkin.
Ouais.
Je savais que ça allait vous laisser.
Faut jamais mettre Friedkin et Star Wars dans la même phrase. Voilà, tu sais qu'il déteste ça.
C'est ça, c'est ça. Bon, allez, on s'arrête là pour ce Capture Mag Hebdo. On va aller manger des petits fours et boire du champagne, hein, pour fêter le nouvel an. Hein. Vous êtes prêts ?
On est prêt.
Vous êtes prêts ? Vous avez vos cargaisons de bonnes choses.
On est ailleurs.
Vous avez été gâtés pour Noël ? Tu as eu, Rafik, le livre sur la Hammer ?
Non. On m'a offert le Star Wars épisode 7 en Blu-ray que je n'avais pas.
Et la version 3D.
La poire à lavement, vous l'avez eu ou pas ?
Oh, commencez pas à être désagréable.
Parce que j'ai dans mes contacts des gens qui se souvenaient du film.
Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup les amis. Merci Rafik, donc merci Stéphane et merci Julien David. D'être venu nous parler de toutes ces belles choses, de ces belles sorties de DVD, de Blu-ray et de sorties de cinéma. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes, allez voir le site capturemag.net.
Oui, parce qu'on est des putaclic, allez.
Exactement, allez cliquer, allez regarder nos autres podcasts, et puis on se retrouve maintenant l'année prochaine pour un Capture Mag Hebdo sûrement. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.